Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes?
Je parlerai de la gaudrie.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur? Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes.
Et coucou.
Et bonjour à tout le monde.
Voilà, nous sommes dans notre studio pour enregistrer cette émission, parce que on vous le dit, parce qu'après on se perd dans les dates. Donc voilà, on enregistre cette émission, alors et on va vous parler de plein de sujets quand même, comme d'habitude. Et on commence, ça sera avec Anne-Marie.
Oui, alors moi je vais vous parler de la France. Suspense. Et toi, Guillaume?
Moi, je vais vous parler un petit peu des derniers albums de musique qui sont sortis là ces quelques dernières semaines.
Et toi, Caroline?
Et moi, je vais vous parler de la fameuse théorie du genre qui fait tant parler actuellement.
Eh bien, voilà des grands sujets de débat pour ce qui vient. Alors, on parle de France. Je vois une carte sur ta table.
Alors, un atlas, même.
Plusieurs, effectivement. Alors, préfacé par François Morel, l'atlas de la France incroyable est paru aux éditions Autrement il y a quelques jours. Vous en avez peut-être entendu parler via les médias. Alors, l'auteur, Olivier Marchon, explique qu'il voulait, je cite, « donner une image incomplète mais terriblement vraie du pays en balayant des tas de sujets chers aux Français, des plus sérieux aux plus anecdotiques ». Alors, ce livre est composé de 6 chapitres, à savoir le territoire, l'histoire, la population, la culture, l'économie et le monde. C'est le livre essentiel que la France attendait. Enfin, la France, je ne sais pas. Mais moi, je l'attendais, cet atlas indispensable, parce que parfaitement inutile, écrit François Morel dans sa préface qui donne ainsi le « là ». Ainsi, sans prétention, ce livre donne de truculentes anecdotes qui font sourire et nous apprennent sans crier gare de nombreuses informations sur nous, sur notre mode de vie, sur notre passé. En véritable chauvin, les Français devraient faire de cet atlas leur livre de chevet préféré.
C'est ton cas, Anne-Marie, si j'ai bien compris. Hein.
J'aime bien, voilà, c'est très léger et en même temps, je vous dis, on apprend des choses de façon
très ludique. Tu as l'air de t'être éclatée.
Oui, exactement, mais je vous le passerai après.
Et en plus, elle a mis plein de petites notes, il y a des petits post-it orange, bleu, vert.
Je sens que je vais m'y perdre, mais bon.
C'est très mignon. Ouais, on peut le dire.
C'est coloré.
C'est surtout travaillé quand même.
Ah ben.
Ouais, bon, ça va, Anne-Marie.
Bon, allez, on commence avec les anecdotes sur le territoire.
Alors j'invite toutes les personnes nulles en géographie à se plonger dans ce premier chapitre où se situe la Lozère, où se situe le Calvados, les régions du Limousin ou de la Champagne-Ardenne. Vous allez vite devenir incollable et pour vous, j'ai sélectionné 3 thématiques. Alors à savoir les petites et les grandes caractéristiques françaises, les noms cocasses des communes et villages et les différents types de toitures traditionnelles. Donc on commence par les petites et grandes caractéristiques françaises. Alors, je vais en fait vous en parler sous forme de petit quiz.
D'accord, c'est parti.
Allez, connaissez-vous le fleuve le plus court, le plus petit de France?
L'Adour, peut-être?
Aucune idée, j'aurais su dire le plus long, peut-être, mais...
Qui doit être la Loire, non? Et bien, le plus court, c'est la Veule, qui se trouve en Seine-Maritime.
Ah ben oui, parce que... Oui, d'accord. Alors, c'est pas les grands fleuves, c'est les petits fleuves aussi.
Oui. Bah oui, là c'est le plus petit même, tu vois, Guillaume. Et il fait quand même, écoutez bien, 1 km, 195.
Ah oui, quand même.
C'est ridiculement petit.
C'est vrai que la montée des eaux, bientôt.
Et, alors le nom le plus petit d'une commune?
Ça doit être en 2 lettres, je pense.
Même pas.
A.
Non.
O.
Non. Eh ben c'est I, mais ça s'écrit Y, et c'est dans la Somme. Voilà.
D'accord.
Et le nom le plus long d'une commune?
Oula, ça.
Alors là, je plains celui qui envoie des cartes postales. Hein. Donc ça s'appelle Saint-Rémy, en Bouzemont, Saint-Genès et Yson. Et ça se trouve dans la Marne.
Oui, ça sent les communes qui ont fusionné.
Oui.
Et qui n'ont pas changé
voulu absolument garder leur nom, et du coup, ça fait des longs à rallonge. Voilà, alors juste pour vous indiquer, le point le plus froid qui a été mesuré, c'était à Mout, dans le Doubs, c'était le 17 janvier 1985, et il a fait moins 41 degrés Celsius. Voilà, donc là, mieux valait se couvrir. Et,
sous-abri, toujours, hein, parce que c'est sous-abri, c'est pour ça, c'est... Oui. C'est une température qui... Parce qu'on peut dire que du moins 40, ça arrive aussi parfois avec le vent, ça en
Oser. Ah oui, mais ça c'est ressenti après. C'est plus la même chose. Et le point le plus chaud a été mesuré à Conquérac et Saint-Christol-les-Alès. Hein, c'est pas très loin puisque c'est dans le Gard. Et il a fait le 12 août 2003, 44 degrés.
Ah oui.
Quand même.
Que ça finalement, j'ai envie de dire.
Bon, c'est déjà pas mal, dis donc.
Oui, oui, mais non, ça me paraissait...
Mais ça me semble un peu métropolitain, ça, parce que est-ce qu'il n'y aurait pas des températures plus élevées ou plus basses dans les territoires d'outre-mer ?
Ah, probablement, mais là, effectivement, c'est vraiment...
La métropole.
Oui, la métropole.
D'accord.
Voilà.
Mais alors, effectivement...
Mais c'est quand même intéressant.
Oui, tout à fait.
On sera moins bête, mais c'est essentiel de savoir que la Veule était le plus petit fleuve de France.
La Veule qui s'écrit avec un S, V-E-U-L-E-S.
Si tu as de la curiosité comme Anne-Marie, c'est intéressant.
Ben, tout à fait.
Bon, après, je n'ai pas dit que forcément vous alliez en parler lors de soirées mondaines.
Ça fera très chic, au contraire.
Exactement. Et alors, vous allez aussi apprendre d'autres choses avec ces noms... de communes des noms assez cocasses. Alors, c'est ce que nous écrit Olivier Marchon. Donc, avec 36 681 villes et villages, la France est le pays qui possède le plus de communes en Europe. Voilà, ça, c'est toujours bon de le rappeler. Donc, il y a des noms assez burlesques de villages. Alors, moi, j'aime beaucoup celui-ci. Dans la Marne, il y a un village qui s'appelle Trécon.
Effectivement.
En Charente-Maritime, il y a un village qui s'appelle Maran. En Lozère, on a Saint-Bonnet-de-Chirac. Et mon petit préféré, en Gironde, il y a un village qui s'appelle Verdelais. Je trouvais ça mignon.
Et Saint-Bonnet-de-Chirac, pourquoi ce choix, Anne-Marie ?
Pourquoi ce choix ? Pourquoi je l'ai donné ? Parce que c'est en Lozère et qu'on est en Lozère.
Voilà. Oui, mais c'est pas très drôle. Enfin...
Oui, qu'est-ce qui est drôle ?
C'est Chirac qui a mis son petit bonnet.
Parce que c'est le bonnet de Chirac.
Ah, d'accord,
voilà.
Bon, ouais.
Oh. Pardon. Quand ça touche la Lozère, en fait, on rigole pas, quoi.
Bah,
c'est
non.
Et pourtant, vous allez voir, je vais beaucoup parler de la Lozère.
Ah ben tant mieux.
Voilà. Alors par contre, Olivier Marchon nous dit que effectivement, il y a beaucoup de noms qui sont marrants, mais tout n'est pas toujours très drôle dans le monde des communes aux noms burlesques. À Châte, en Isère, le maire en a marre. Chaque année, 5 à 6 panneaux d'entrée de son village sont discrètement subtilisés. Et forcément, ça coûte cher.
Bien sûr.
Ça coûte cher, en tout cas, de racheter des panneaux. Le cas n'est pas isolé, puisqu'à Montcuq, dans le Lot, Verges, dans le Jura...
Bien Poil, connu.
Et Poil aussi, dans la Nièvre.
Sont autant de communes françaises bien nommées qui dépensent des sommes folles donc pour remplacer chaque année leurs panneaux disparus.
J'ai une magnifique photo de moi à poil, justement, devant le
Mais on ne l'a jamais vu, cette photo de toi à poil.
Mais Guillaume
devant le panneau de la ville de Poil, bien entendu.
Donc je note qu'après la petite banane jaune que nous a promise Anne-Marie, nous devrions avoir la petite photo de Guillaume à poil.
Il n'y a aucun problème pour la photo à poil. vous aurez ça. Parce que Anne-Marie, on attend toujours.
Hein. Alors, chers auditeurs, promis, on la mettra sur Facebook.
Et alors, dernière caractéristique, en fait, de ce chapitre sur le territoire qui, là, pour le coup, est vraiment intéressant. Donc, il s'appelle « Toi, toi, mon toit ». Donc, ce sont des caractéristiques sur les toitures traditionnelles. Je trouve ça assez intéressant et vous allez voir pourquoi. Donc, Olivier Marchand nous demande comment se repérer sans smartphone, sans GPS, sans sextant ou sans boussole et sans non plus parler aux personnes qu'on croise sur sa route. Eh bien, une seule solution, lever les yeux et regarder les toits. De l'ardoise, il y a de grandes chances pour qu'on soit en Bretagne. Et en plus, s'il pleut, c'est certain, on y est bien. De la Lauze, on se trouve probablement dans le Massif central. Du Bardot, ce sont à coup sûr les Alpes. En revanche, la tuile, c'est un vrai problème. Présente un peu partout en France, elle prend plusieurs formes selon les régions. Et je voulais juste vous faire un petit rappel concernant les toits lozériens. C'est au cours du XVIIe siècle que la technique de fabrication des toits en carène de bateau renversé prend son essor en France. Elle est ainsi très répandue en Lozère et à Mende. On le voit surtout sur les berges du Lot.
Ouais.
Ces charpentes à la Philibert de Lorme, du nom de leur concepteur, s'inspirent de la forme des carènes de bateau. Cela permet de profiter de l'intégralité des combles pour le stockage des denrées, notamment pour le fourrage lors de la construction des granges, comme nous le rappelle une page de Wikipédia. Voilà, donc je trouvais que c'était un petit rappel qui était intéressant. Voilà.
C'est mon vieux Philibert, sans doute un de mes ancêtres.
Oui, c'est ce que je me suis demandé d'ailleurs en écrivant cette chronique. Je me suis dit, est-ce que Guillaume est un descendant ?
Je n'ai pas fait le lien de généalogie jusqu'à Philibert de Lorme.
Ah ben, tu devrais.
Bon, on poursuit avec l'histoire de France maintenant.
Oui, alors au cours de son histoire, la France a changé de visage car elle n'a pas toujours été un hexagone suite à ses victoires ou à ses défaites sur l'ennemi. Alors Olivier Marchand nous rappelle que sous le Premier Empire, soit en 1912, Florence et Rome faisaient partie du territoire de l'Empire français, tout comme Hambourg et Amsterdam. Invasion barbare, invasion médiévale, attaque du XXe siècle avec le déguerre mondial, la France a bien évidemment souffert, et ce, à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud. Avec ses cartes et ses petites histoires, l'Atlas de la France incroyable retrace en quelques pages la grande histoire de notre pays. Et voilà, pour ceux et celles qui vont passer des examens cette année, moi je leur conseille de regarder ces pages. En tout cas, ça donne envie aussi d'en savoir un peu plus sur notre histoire. Alors, plus anecdotique, la révolution évidemment de 1789 a eu un impact sur 1200 villes. Donc, bon, ça c'est vraiment la chose anecdotique, qui ont dû changer de nom puisqu'il fallait gommer tout ce qui pouvait rappeler le passé et la monarchie. Alors, je vous donne un exemple parce que c'est à côté de chez nous. Aigues-Vives le roi dans le Gard devient très logiquement Aigues-Vives la République pour s'appeler finalement aujourd'hui Aigues-Vives et en deux mots. Alors qu'avant, Aigues-Vives, c'était en un seul. Donc, je m'arrête juste sur une page intitulée « Les terres de la Der des Der » et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je vous lis cette petite page. Le 11 novembre 1918, à 10h55, 5 minutes avant l'armistice, le soldat Augustin Trébuchon meurt d'une balle dans la tête et devient le dernier militaire français tué de la Première Guerre mondiale. Hasard de l'histoire, il venait de Lozère, le département qui a payé le plus lourd tribut humain militaire de la guerre. La répartition des morts du conflit n'est en effet pas homogène. Pendant longtemps, on a cru que certaines régions, comme la Bretagne ou la Corse, avaient été sacrifiées par les généraux. Il semble que ce ne soit pas si évident en Corse. Quant à la Bretagne, la jeunesse de sa population d'alors peut aussi expliquer les plus grosses pertes subies. La Manche a, elle aussi, payé lourdement son dû à la nation. Pourtant, on y trouve la commune de Beuzeville au Plain, l'un des rares villages de France à avoir vu revenir tous ses enfants du front. C'est assez exceptionnel. Mais il n'y a pas que des pertes humaines, finalement, pendant la Première Guerre mondiale. Lors de la bataille de Verdun, en 1916, 6 villages ont été rasés par les canons et sont considérés aujourd'hui comme morts pour la France. C'est vrai qu'on parle toujours de soldats morts pour la
tout
France,
à fait.
Mais il y a aussi 6 villages qui le sont. Eh bien, ils sont administrés encore aujourd'hui, chacun par un maire, nommé par un préfet. Je vais juste vous donner un exemple. Donc, c'est à Cumières-le-Mort-Homme. Eh bien, le maire s'appelle Jean Lavigne. Et voilà, si vous passez près de Verdun, vous verrez qu'il y a une église construite en 1933 avec les pierres de l'église détruite pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a aussi un monument aux morts. Voilà. Mais je trouvais ce rappel intéressant.
Oui, c'est intéressant, effectivement.
Voilà. En plus, vu qu'on est dans les commémorations en ce moment.
On y arrive. Hein. Si je peux me permettre de signaler l'excellent film d'animation qui est paru ce printemps sur justement ce dernier poilu tombé pour la France, Augustin Trébuchon, le Lozérien. Un petit film fait par Jérémy Malavoie, d'animation fait par Jérémy Malavoie qui est absolument. Superbe et que je vous recommande. Il est sorti en DVD, donc on peut le trouver facilement. Et c'est vraiment un petit objet de mémoire très sympa et vraiment, il faut en faire la promotion. C'était passé sur Arte et franchement, c'est un joli petit cadeau pour les férus d'histoire.
Ouais, merci pour cette information.
Toujours sur cette actualité de cet anniversaire de cette grande guerre, les archives départementales qui ont toujours leur exposition jusqu'à la fin de l'année. Mm-hmm. Donc n'hésitez pas à vous y rendre en journée et à découvrir cette exposition qui parle aussi de la façon dont la guerre a été vécue en Lozère. Mm-hmm. C'est aussi des choses intéressantes. Voilà.
Donc voyons, on ne parle pas que de choses light dans ce livre.
Bien sûr. Alors on continue avec le sujet qu'on retrouve évidemment dans toute analyse géographique, la question de la démographie, de la population.
Oui, effectivement. Alors selon l'Atlas de la France incroyable, les régions qui sont les plus heureuses, parce qu'on ne parle pas forcément de démographie, hein, mais peu importe, les régions qui sont les plus heureuses se situent dans le Nord-Pas-de-Calais, comme quoi hein, le film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, avait bien raison. Alors il y a aussi les régions du Sud-Ouest, l'Aquitaine, et les régions du Sud-Est, hein, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans ces régions, du moins, voilà, on est très heureux. A contrario, la Bretagne enregistre un nombre élevé de suicides. Alors là, bah, pareil, je vais vous lire cette page parce que j'ai appris plein de choses et je me suis dit, ah bon, quand même. Alors en 1990, nous rappelle Olivier Marchand, le département des Côtes-du-Nord, appellation jugée trop déprimante, changea de nom pour un bien plus attirant, Côte d'Armor. Alors 24 ans plus tard, ce même département détient le triste record de France du taux de suicidés. Et il semble que le magnifique viaduc de Dinan, qui enregistre, dit-on, une tentative de suicide par semaine quand même, hein, n'est pas étranger à ce chiffre. On viendrait de loin pour mettre fin à ces jours à Dinan. Quoi qu'il en soit, ce sont les hommes, les seniors et les veufs qui se suicident le plus en France. Donc, vous voyez, apparemment, les femmes résistent un petit peu mieux, bon, elles sont peut-être un peu plus fortes. Et au palmarès national des modes de suicide, la pendaison tient la corde. Voilà.
Ah oui, la parce bonne que blague.
Oui, non, mais il a ce ton en fait dans toutes les pages et c'est pour ça aussi que c'est agréable de lire cet atlas. Sachez aussi que pendant les deux minutes hein, qu'il m'a fallu pour lire ce petit texte, un Français a tenté de se suicider. Il y a en effet 700 tentatives de suicide en France par jour, 700, parmi lesquelles 27 sont fatales.
Eh ben c'est gay comme chronique.
Mais justement, Caroline.
Oui. On va passer à la partie sexe.
Justement, voilà la gaudriole.
J'avais pas envie de finir ce chapitre sur cette note triste. Donc on va parler de libertinage. Sachez que c'est dans les départements de l'Hérault, donc à côté de chez nous, que l'on compte le plus de lieux échangistes ou libertins, soit au total, 76, alors que la Creuse, chez moi, la Lozère ou encore la Mayenne n'en compte aucun. Voilà. Donc, si vous êtes lozérien et que vous voulez aller dans un lieu
de débauche,
voilà, mais vous prenez votre voiture et vous en avez pas pour longtemps.
Allez dans l'Hérault.
et je vois que ça vous intéresse. Donc, ce sujet, on peut le continuer. On peut continuer sur cette lancée avec une petite évocation de la pilule bleue.
Oui, effectivement, il y a toujours chaque année cette carte de la consommation de Viagra.
Alors, la molécule de Viagra a été conçue originellement pour soigner... Pour soigner quoi ?
Ah, ça, c'est une bonne question.
Caroline ?
Je ne sais pas.
Non. Pour soigner les angines de poitrine.
Ah oui.
Mais devant ses effets secondaires pour le moins impressionnants, on décida de réorienter son utilisation. Et depuis que des Viagra génériques moins chers ont fait leur apparition, les ventes de la fameuse pilule bleue ont bondi partout dans le monde.
On bondit ?
On bondit, pardon.
Allons-y gaiement.
Et là, il y a des...
Excusez-moi. Je sais pas, c'est un accent du sud là.
Oui, c'est ça.
On va dire ça.
Excusez-moi. Donc les... Je pense que ça va me poursuivre.
Ah, je pense qu'on pourrait le retrouver dans le générique de l'année prochaine.
C'est pas impossible.
Vivement que je ne sois plus là, alors. Donc, les ventes de Viagra et de ces génériques ont pesé, écoutez bien, près de 138 millions d'euros en France en 2013. Pas mal pour une molécule qui a valu à ses inventeurs le prix Nobel de la médecine en 1998. Je trouvais ça pas mal de le rappeler parce que la fois dernière, tu nous avais parlé des prix Nobel.
Oui.
Et bien, en 1998, il y a eu en fait trois chercheurs. Hein, c'est souvent des trios, c'est ce qu'on avait vu avec toi. Donc, trois médecins, dont Louis Ignaro, qui est considéré comme l'inventeur de la pilule, enfin du Viagra. Voilà. Et donc, eux, ils ont eu le prix Nobel en 1998. Alors, sur cette carte, donc, puisqu'à chaque fois qu'il y a un texte, il y a une carte de la France.
D'où le nom d'Atlas.
Exactement, ça va de soi. Eh bien, sur cette carte... Non, mais parce que du coup, c'est vrai, comme il n'y a pas de... On n'est pas filmé, donc c'est pour ça que je préfère rappeler ça à nos chers auditeurs. Donc, à côté de ce texte, une pilule et au lit, on a donc la carte. Et on se rend compte que la Lozère est un des départements où on le consomme le moins de Viagra, avec, par exemple, la Corrèze, le Maine-et-Loire, le Puy-de-Dôme.
Et ce n'est pas la Corse qui a le record
C'est l'Île-de-France.
Il me semble que dans les derniers...
Mais la Corse est pas mal, effectivement. Elle est plutôt bien située, mais ça reste l'Île-de-France voilà, qui a... Bon, en même temps aussi, c'est normal, puisqu'il y a plus de personnes.
Oui, c'est ça. Bon, proportionnellement, voilà, on a plus de chances. Ouais.
Plutôt normal.
Bien. Et donc, on finit avec des anecdotes qui t'ont plu.
Oui, alors bon, il faut dire aussi que beaucoup m'ont plu, je vous en ai déjà parlé, vous avez dû vous en apercevoir. Évidemment, je ne peux pas toutes les citer, c'est bien pour cela que je vous invite à vous procurer cet atlas. Laissez-moi juste vous dire et peut-être vous apprendre que le Tour de France s'est arrêté dans 653 communes depuis sa création en 1903. Mende, évidemment, en fait partie, puisqu'elle a reçu le Tour de France en 1995, on s'en souvient avec Laurent Jalabert.
Oui,
en 2000. Il y a 20 ans cette année.
Oui. En 2005 et en 2010, on s'en souvient aussi. Et puis, vous le savez, les 18 et 19 juillet prochains, Mende sera ville d'arrivée et de départ du Tour de France. Donc, Rodez-Mende hein, pour le 18 et Mende-Valence le 19 juillet.
Ouais.
Ouais, alors, je voulais continuer et vous dire stop aux idées reçues hein, concernant le pays des Froggies. Hein, vous savez, c'est généralement les Anglais qui nous appellent comme ça. Sachez en fait que l'Hexagone ne compte qu'un seul et unique élevage de grenouilles sur son sol. Il se trouve dans la Drôme, pareil, pas très loin de chez nous, plus précisément à Pierrelatte. En réalité, la France importe d'Indonésie les 8000 tonnes de cuisses de grenouilles qu'elle consomme tous les jours.
Tous les ans.
Parce que 8000 tonnes, ça ferait beaucoup.
Ouais, ça fait quand même un peu beaucoup.
D'ailleurs, je sais pas si vous en mangez, non?
Non, pas du tout.
Bah oui, quand il y en a.
Ah ouais. Bon, bah tu vois, en tout cas, ce sont des cuisses de grenouilles qui ne viennent pas de chez nous. Et puis, si vous voulez devenir riche, eh bien, il faut emménager dans mon département, dans la Creuse, puisqu'il y a plus de gagnants qu'ailleurs au loto comparé à sa population. Donc 5, c'est le taux de chance de gagner au loto dans la Creuse. Il est de 4 en Lozère.
Bon.
Tout ça vaut gris, donc.
Et tu finis donc par des bisous.
Oui, je voulais vous faire des bisous, enfin plus précisément des bises. Je trouvais ça mignon. En fait, donc Olivier Marchand nous rappelle que le nombre de bises pratiquées varie d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. En fait, comme pour tous les usages, il n'y a pas de règles. C'est vrai que c'est toujours embêtant quand on va dans un département étranger. On ne sait jamais sur quel pied danser. Donc il apparaît...
Il y a les radins avec une
ou
seule.
Ou sur quelle joue se maquer.
C'est ça. Oui.
Il y a les radins qui commencent à 1, il y en a qui vont jusqu'à 4.
En même temps, quand on est en période de gastro, c'est encore mieux quand on n'en fait pas. Mais voilà, c'est ce qu'il nous dit Olivier Marchand, c'est qu'il apparaît que la double bise est d'un usage dominant dans l'Hexagone, mais que la triple et la quadruple bise offrent de vrais foyers de résistance. Par exemple, en Lozère, c'est 3.
Eh bien oui.
La simple bise semble en revanche en voie de disparition.
Ouais, ça fait radin quand même.
Oui, et puis bon... C'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, hein. Il y en a encore une fois qui ont l'habitude. C'est d'ailleurs pour lutter contre la double bise qui grignote les parts de marché partout en France et en particulier dans le Finistère que sont créés en 2014, et c'est pas une blague, le Grubub, puis le Crubuc, alors groupement de réhabilitation de l'usage de la bise unique à Brest et à Quimper. Effectivement, j'ai trouvé sur internet, c'était donc France 3 Bretagne, qui a parlé de ce groupement de réhabilitation de l'usage de la bise unique à Brest, qui a donc été créé effectivement le 1er mars dernier. Alors, selon eux, le problème est que cette pratique de la bise est un danger qui dresse un constat alarmant. En fait, le développement exponentiel de l'usage de la double bise à Brest, donc eux, ils sont contre, et ils voudraient que cette pratique barbare, qui prend pied dans la cité de Brest... s'arrête. Enfin, je trouve ça hallucinant de créer un groupement comme ça parce qu'ils en ont marre de la double bise. Enfin bon.
Bon, c'est sans doute un petit peu avec un peu d'ironie que tout ça a été fait.
Non, ma foi. Bah écoute, ils en ont quand même bien parlé. Alors bon, après peut-être qu'ils ont que ça à faire, je sais pas. Bon, on sait aussi que les Bretons, ils sont quand même très attachés à leur coutume quand même. Hein. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'ils l'aient fait sérieusement. Mais bon, voilà.
Alors, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter?
Donc, je parlais de la France. Alors, on va rester avec un petit chanteur français qui s'appelle Charles Passy, mais qui chante en anglais. Et il sort son troisième album, Sometimes Awake. Je vous propose d'en écouter un extrait.
Sometimes wanna hide it. Yes, I've been through hell, and I'm still ashamed of what I am. From a place out of time, where a man has got to be a man.
Guillaume, avant de te passer la parole, Anne-Marie, où peut-on trouver cet atlas de la France incroyable ?
Une chose est sûre, moi je l'ai acheté donc à la librairie La Lorgnette à Mende. Peut-être qu'il y en a ailleurs, mais voilà, je l'ai acheté à La Lorgnette.
Dans les bonnes librairies de Lozère, va-t-on dire donc. Hein ?
Exactement.
Guillaume !
Eh oui.
Alors, on va parler musique ?
C'est ça, on va parler musique.
Est-ce qu'on a le droit de swinguer sur les tables ?
On peut essayer.
Déjà qu'on n'a pas vraiment le droit de manger, alors swinguer, je ne sais pas.
Bon, si maintenant on mange à l'intérieur, on a été
réautorisé. Et on laisse des petites miettes pour Ludo, spéciale dédicace. Hein.
Alors, je vous propose de commencer cette chronique musicale avec un Lozérien. Et puis, on va écouter un petit peu déjà. On va donc écouter. Vous allez me dire qui c'est, tiens d'ailleurs.
Un petit quiz, Guillaume.
Allez, oui, un petit quiz.
On s'amuse dans cette émission.
On écoute et vous me direz qui c'est.
Profiter de ma life, dormir, sortir, que faire de ma night. Est-ce que je dois profiter de ma life bien avant que ma vie s'écoule? Dormir, sortir, que faire de ma night? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout tout de suite, toi te sauter. C'est une course poursuite, moi je m'épuise.
Wesh Gava, tu te pavanes. T'as sorti la gova et les bravas. T'es de passage, c'est le bazar. T'as provoqué les passants même en bas âge. On te connaît, t'aimes rigoler. Mais personne n'aime te croiser quand t'as trop picolé. Tu vois une équipe, tu veux embrouiller l'un d'eux. Arrêtez mon gars, si on en se verra main d'eux.
Est-ce que je dois profiter de ma life
bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma nuit? Soit je m'isole, soit je deviens fou. Tu veux tout, tout de suite.
Alors moi je donnerai un petit indice, il vient profiter de sa life, souvent à Vébron.
Et effectivement, et c'est donc Masca avec l'album Espace-temps et donc la chanson Profiter de ma life. Donc, Section d'Assaut est entrée dans la légende, hein, et nul ne peut nier maintenant l'impact que ce groupe a eu sur la scène du rap français. Et avec Avant qu'elle parte, Problème d'adulte, Ma direction, L'appel d'air, voilà autant de titres dont les couplets les plus intenses portent aussi la griffe de Masca. Voilà, je vais y arriver. Masca, ce Lozérien, voilà, aujourd'hui il revient avec ce premier album Sono.
Sono et solo.
Bah, j'ai bu une gorgée de rosé.
C'était la gorgée de trop.
La gorgée de trop. Donc,
qui revient en solo.
Solo. Espace-temps, dans lequel il se met à nu.
Ah bah lui aussi se met à poil.
Mais rappelez-vous les clips, les clips qu'il a diffusés pour annoncer cet album cet été. Il y avait notamment l'un d'eux qui était très aquatique, on va dire, dans une cascade bien connue de Lozère, et c'était assez chaud, on va dire ça comme ça. Voilà.
Ah, t'as regardé, hein.
Je prépare mes chroniques, hein, vous savez. Moi, c'est que du professionnalisme derrière.
Il fait du gros buzz, hein, sur Facebook. Il utilise beaucoup les réseaux sociaux. Ouais. Et...
voilà. Et donc, selon Sony Music, le résultat du travail de Titan de Masca est un disque original qui ressemble à son auteur. Voilà, voilà. Donc, je vous propose de maintenant rester dans le hip-hop et le rap avec, moi je trouve, un grand nom de cette scène qui sort un album et on va écouter. Et puis, pareil, vous allez me dire qui est-ce que vous avez reconnu. Connu qui était là.
Bah quand même son timbre de voix est vraiment reconnaissable, c'est Soprano. Et alors moi Soprano j'aime bien aussi quand il parle, quand il répond à des interviews, c'est cette voix grave qui je trouve est très sexy aussi.
Voilà donc avec le titre Cosmo, extrait de ce nouvel album Cosmopolitanie, sorti le 10 octobre. Donc voilà, 18 ans après ses débuts, Soprano nous livre donc cet album, son troisième album solo. Voilà, sachant qu'il faut ajouter 4 albums qui sont sortis avec le groupe Psychiatre de la Rime, dans lequel il a participé. Cet album est né d'une idée, d'un concept, d'une envie que l'artiste a laissé mûrir avant d'en définir parfaitement les contours. Soprano aura mis 2 ans à produire un disque qu'il voulait en accord total avec ce qu'il est aujourd'hui et ses passions musicales. Lassé par certaines postures du rap, c'est paradoxalement en s'ouvrant à des chants musicaux plus mélodiques que Soprano a remis en valeur un des aspects fondamentaux du hip-hop, le message. Il aborde à tour l'incertitude des sentiments, la violence des quartiers, la joie, les inégalités, l'argent, la guerre. Le titre même du projet n'a rien d'anodin, ce néologisme, Cosmopolitanie, employé donc par Soprano en 2007 sur Alabien, synthétise sa vision d'un monde idéal, un brassage culturel, ethnique, social, religieux, un monde ouvert où les différences ne sont pas niées, mais acceptées et célébrées en paix. Soprano reste néanmoins un homme du réel, et à Marseille, certaines réalités sont plus dures qu'ailleurs. C'est ce champ entre l'idéalisme et le concret qu'explore Cosmopolitanie en 15 titres. Donc voilà, bienvenue en Cosmopolitanie. Alors, on va changer de style maintenant avec un artiste qui se présente sous son prénom, entre chansons françaises et électro. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est Vianney, donc avec l'album Idées Blanches. Et on va écouter Je te déteste. Et on en reparle après, vous allez me dire ce que vous en pensez.
Mais non, Guillaume, on t'aime.
ne suis pas musicien, je ne suis pas chanteur. Dieu m'a donné des mains pour consoler mon cœur. Si j'avais pu savoir combien tu t'en foutais, j'aurais tué l'espoir de pouvoir t'emmener. Je ne suis pas en sucre, je ne suis pas en sel, mais je sens bon l'amour jusque sous les aisselles. Si j'avais une voix et la moustache qu'il faut pour passer sur Nova, tu reviendrais bientôt quand j'y pense, rien ne la pense là. Mais en ce que tu as laissé, c'est vrai que quand j'y pense, faut que j'avance. La séance est terminée, je sais alors. Alors je laisse aller les doigts sur mon clavier. Je viens gifler mes cordes plutôt que ton fessier. Je crie de tout mon être sur un morceau de bois plutôt que dans tes oreilles qui n'écoutent que toi. Tu n'es pas la plus folle. Quand tu veux la jouer comme, c'est comme, il restera comme. Comme ce que tu n'es pas, mais que tu me montrais. Tu peux changer de voix, mais pas ce que tu es.
Alors, le site baco.com nous le présente, ce Vianney.
Bah c'est insupportable cette voix quand même, vous êtes d'accord?
Bah, une chanson ça va, ouais, un album
alors, deux,
en voiture,
c'est vraiment infernal. Quoi.
Bon, alors, je vous dis ce qu'en dit le site baco.com. Comme venu dans le... nouveau venu dans la chanson française, Vianney, signé chez Tôt ou Tard, nous propose un premier album enjoué, Sage Garçon, au style un poil décalé, avec une belle pochette très 60s.
Un poil lui aussi, c'est ça?
Non,
émission.
Non, non, un poil décalé seulement. Le français désacralise une chanson française, parfois un peu guindée, en la mixant à une musique très accessible, idée blanche, fait donc la part aux mélodies et aux airs entêtants, c'est peut-être bien justement ce qui vous plaît pas. Vianney Bureau, de son patronyme complet, nous ouvre dès le premier titre les portes de son univers atypique, première note en forme de jeu musical, au débutant de l'amour, laisse entrevoir une personnalité hors du commun, humeur positive, musicalité doucement dansante. Vianney nous sert un morceau doux, fait de petites touches instrumentales, agréablement mêlées, qui donne rassemblé un sentiment de pulse musicale. Au travers de compositions à l'écriture efficace, le musicien joue avec les mots, jonglant dans une langue française revigorée dans sa bouche, construisant des titres simples d'abord. Il ne cherche pas à briller, mais seulement à diffuser ses textes aux mélodies entêtantes.
Et alors moi, c'est très drôle parce que je l'ai entendu pour la première fois sur une radio amie.
Oui.
Et je me suis dit, mais c'est un truc amateur, quoi. Ça ressemblait à ces posts qui se font parfois sur les réseaux sociaux de pour rire, quoi. Et vraiment, ça m'a donné cette impression.
Mais justement, j'aimerais bien connaître ton impression, Guillaume, parce que là, tu nous parles d'un site, mais toi, justement, t'en as pensé quoi? Parce que si tu l'as sélectionné,
oui,
c'est
mais...
que...
ouais, moi, je...
enfin, il y a une raison.
Tu as été entêté.
Oui, j'ai été un peu entêté. Je trouve que ça fait un peu le... ça fait un peu le même effet que Christine and the Queens. dans cet effet un peu entêtant où tu commences à écouter et puis au final tu mets le l'auto review de ton lecteur et t'as envie de toujours continuer à écouter. C'est un petit côté
moi je suis pas addict. Hein.
Ah, moi non
très,
plus.
Très, très clairement.
Moi non plus. Et même de la chanteuse dont tu nous avais parlé l'an dernier,
Guillaume. Oui.
C'est vrai que je trouve que c'est tellement particulier, c'est un monde tellement à part.
Je préfère 100 fois être entêtée par Christine and the Queens. Hein.
Et ben, je vais vous proposer d'être peut-être entêtée avec quelqu'un d'autre. Moi j'aime bien aussi ce que vous allez entendre. C'est un ex-candidat de The Voice et qui a retrouvé ses anciens camarades de son groupe de lycée. Donc écoutez, on va écouter et puis vous me direz ce que vous en pensez après, hein, parce que vous avez l'air un peu critique, les filles, aujourd'hui.
Nos caresses ne font que ce qui nous plaît. Depuis deux heures qu'on se laisse aller. Depuis deux heures la ville a changé. Sur ce trottoir là, restons levés. Toi contre moi, debout. sais, ma belle pas chérie, je crois pas à l'amour. Ma belle pas chérie, va à l'amour. Je crois que je te dirai toujours. Ma belle pas chérie, je crois pas à l'amour. Ma belle pas chérie, va à l'amour. Attends qu'on t'acte à l'infini.
Bon alors qu'est-ce que vous en pensez de ce
ah
bah,
Louis, j'aime beaucoup, beaucoup mieux.
Ouais, Louis ouais. Delors and the Shepherds avec le titre M'appelle pas chérie, voilà. Donc Louis Delors avait marqué la première saison.
Alors de... tu nous détestes, après il faut pas qu'on t'appelle
voilà,
chérie.
C'est ça, c'est ça.
C'est plein de messages subliminaux.
C'est ça, exactement.
Dans cette chronique.
Tout à fait. Donc Louis Delors avait marqué la première saison de The Voice avec sa voix unique et son jeune âge, il avait 18 ans à l'époque. Et 3 ans plus tard, il revient donc avec de nouvelles cordes à son arc. Il a en effet joué plus de 200 fois l'un des rôles principaux du dernier spectacle de Dovatia et d'Albert Cohen, 1789, Les Amants de la Bastille. Il revient donc avec un projet solo, ou plutôt un projet à plusieurs, puisqu'il a retrouvé donc son groupe de rock du lycée, The Shepherds. Voilà, certains parlent de malédiction The Voice, puisque peu d'artistes ont réussi à construire une carrière après leur passage à l'émission. Stéphane Rizon ou encore Johan Fréget, les deux premiers gagnants en France, ont peiné à vendre leurs albums. En France, on a été surpris quand même tout dernièrement par le succès de Kenji, le vainqueur de la 3e saison, qui a vendu plus de 150 000 albums et en un peu plus d'un mois, bien loin donc de l'univers de ce Kenji, Louis Delors pourrait peut-être connaître un beau succès. Ben voilà, espérons que les téléspectateurs qui l'avaient aimé il y a 3 ans seront toujours là.
Et quant à Kenji, je crois que ça serait peut-être bon qu'il change un peu de style s'il veut durer. Enfin bon, c'est oui. Un avis très personnel.
Oui, je pense qu'effectivement, pour un premier album, ça peut encore le faire, mais
ouais, exactement.
Il va falloir se renouveler pour le deuxième. Bien, eh bien je vous propose maintenant d'aller dans une grande salle parisienne, une salle mythique, l'Olympia. Et puisque 3 albums live y ont été enregistrés et sont sortis il n'y a pas très longtemps... Et ben je vais vous proposer de commencer par un artiste mythique, hein, on va dire, une chanson du patrimoine français. Ben voilà, c'est tout de suite, hein, Maxime Le Forestier, San Francisco.
C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrume, quand San Francisco s'allume, San Francisco, où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi.
Voilà, que dire de plus pour Maxime Le Forestier, je crois que bah, voilà.
Hein. Un album à l'époque dont quasiment tous les titres ont été des succès, il faut quand même le rappeler.
Ouais. Alors maintenant, je vous propose de rester à l'Olympia et d'écouter une chanteuse à voix.
C'est ça.
Dit que nos vies ne valent pas grand-chose, qu'elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Il paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Et voilà.
Ben, on est un peu déçus, Guillaume, une chanteuse à voix. On pensait à Anne-Marie que tu allais nous parler de Mireille Mathieu, qui elle aussi sort un album.
Bah, c'est surtout que c'est ses 50 ans de carrière.
Ben oui, quand même, Guillaume, enfin.
Dis
ben
donc.
Oui,
écoute, je, Mireille Mathieu.
J'ai pas retenu Mireille Mathieu, désolé. Donc voilà, Carla Bruni publie son premier disque live. Voilà, avec un DVD joint, et on va y revenir d'ailleurs. Bon, le répertoire de ce concert enregistré à l'Olympia le 11 mars dernier puise essentiellement dans ses deux albums en français, sans oublier en ouverture le « Déranger les pierres » qui se trouvait sur l'album de Julien Clerc, « Où s'en vont les avions ». Au rayon des reprises, on a le « All the best » de John Prine en duo avec Marianne Faithfull, ainsi que « Si la photo est bonne » de Barbara. Voilà, ce disque sert en fait aussi de premier best-of finalement des chansons de Carla Bruni. Donc bah, voilà, on a écouté ce titre qui lui colle à la peau. Hein. C'est finalement, si on dit Carla Bruni, qu'est-ce qu'elle a chanté? Bah, c'est effectivement.
Bah, c'est bizarre que t'aies pas choisi Mon Raymond.
Et oui.
Mais en tout, elle a pas sorti que 3 CD.
Non, je crois qu'elle a fait. Je sais pas si elle combien d'albums elle a fait en anglais, mais c'est plus, elle a dû en faire plusieurs, je crois.
Ah bon.
Oui, je crois qu'elle en a fait plusieurs, notamment pendant la période où elle était compagne du président de la République, et donc elle sortait ses albums en anglais et pas en France. Voilà.
Il est vachement intime, hein, je suis surprise.
À noter que donc, dans le DVD, il y a un documentaire de 26 minutes qui s'intitule Little French Songs in America, qui accompagne donc ce DVD. Et on y voit Carla à New York et Los Angeles en promotion radio et télé, où se préparant pour les concerts. Elle y fait deux belles rencontres avec Fred Coella, le marchand de guitare, et Daniel Lanois, qui chez lui aussi pour un bon moment musical. Voilà. Et alors je vous propose de terminer notre étape olympiesque avec un Belge aux 40 ans de carrière et aux 30 ans d'Olympia. Alors attention, là c'est pareil, on est dans le patrimoine là aussi. Hein.
Que tu sais par cœur, car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les volcans d'Italie, quand résonne encore le bruit des verres de Chianti. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne.
Donc en fait, on ne peut pas t'appeler mon chéri, mais tu nous aimes à l'italienne.
C'est ça, c'est
mignon
ça.
Quand même, c'est un peu voilà. Du « je t'aime moi non plus ».
C'est exactement ça. Donc voilà, après plus de 40 ans de carrière et 35 millions d'albums vendus dans le monde, Frédéric François est de retour avec un double album live retraçant ses 30 ans d'Olympia. L'occasion pour le public de redécouvrir ses plus grands tubes en live.
Mais tu vois, avec Mireille Mathieu, t'aurais pas été trop.
Non, mais c'est surtout... J'ai fait un choix, j'ai pris Frédéric François.
Là, on sent quand même que les fêtes de Noël approchent, hein, parce qu'ils sortent tous quand même leur best-of. Ouais, ouais. On voit aussi des reprises par des jeunes chanteurs en ce moment.
Tu voudrais dire que tout ça est très commercial, Anne-Marie?
Non. Je n'oserais pas.
Bon.
Alors, pour Frédéric François, on peut dire qu'il continue à donner des concerts à guichets fermés. Et ses ventes de disques font de lui le troisième chanteur de nationalité belge le plus vendu dans l'histoire de la musique, derrière Salvatore Adamo et Jacques Brel. Voilà, il a obtenu 85 disques d'or, singles et albums confondus, 15 récompenses d'or pour ses ventes de vidéos.
On
et
va
DVD.
Pas les vérifier de toute façon.
Il a chanté 350 chansons en 4 langues.
Eh bien.
Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la partie un peu plus pour adultes de cette chronique, hein, parce que c'est un critère hein, de cette émission, avec quelqu'un dont nous avait parlé Elodie dans une émission l'année dernière, un actuel Lui and Friends. Donc, on va écouter, puis après, on se rappellera de qui est cet artiste. Attention, c'est pas à mettre dans toutes les oreilles, mais la chanson que je vous ai choisie, rassurez-vous, vous pouvez l'écouter.
Comme toi, le matin, elle se levait. Comme toi, elle prenait son petit déjeuner. Comme toi, parfois elle rigolait. La meuf à Michel fournirait. Comme toi, elle faisait des bisous. Comme toi, elle était plus grande debout. Comme toi, parfois elle marchait sur des cailloux. La meuf à Marc Dutroux. Ceausescu aussi se brossait les dents. Et tous les officiers nazis ont tous été des enfants. Pom 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 pom.
Alors voilà, c'est Guédré, Guédré qui naît en République socialiste de Lituanie, puisque c'était à l'époque où c'était encore l'URSS. Et sa mère s'établit en banlieue parisienne à la suite du décès de son mari, et alors que Guédré est âgé de 7 ans. Après avoir obtenu son bac, elle étudie l'art dramatique au cours Florent, puis à l'ENSAT, et tient de petits rôles à la télévision, au théâtre et dans des spots publicitaires. Elle commence à composer des chansons qu'elle interprète dans un bar de son quartier au début des années 2000. Remarquée par Raphaël Mezrahi durant une audition, Guédré se produit ensuite en première partie du spectacle de l'humoriste à La Cigale. Alors décrit comme cru, politiquement incorrect et teinté d'humour noir, les textes de Guédré abordent des sujets comme la prostitution ou la pédophilie. Il contraste avec son apparence innocente et ses costumes de scène enfantin. Guédré estime que ses chansons ne sont pas provocantes, elle dit retranscrire la réalité qui, elle, est souvent choquante. Au sujet de ces textes, la presse évoque les chansons parfois crues de Pierre Perret ou encore de Georges Brassens, que la chanteuse a beaucoup écouté. Et Guédré se dit fan de musique folk. Et donc, ma première compile est son 6e album. Donc voilà, il y avait de quoi faire une compile avec 6 albums. Alors, on termine cette chronique avec Cécile Crochon. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Cécile Crochon ?
Rien du tout.
Bon, alors je vous aide. Cécile Cassel, est-ce que ça vous dit un peu plus ?
Ben, moi non, mais.
Ah, bon. Si, c'est une actrice.
Ah, voilà, c'est une actrice, mais c'est
ouais,
aussi.
Ouais,
le
nom me dit quelque chose.
C'est
mais
aussi une chanteuse française,
pas
et
un
en fait, elle chante dans un groupe qui s'appelle Olysees. Donc on va parler effectivement de ce dernier groupe. Donc Cécile Cassel est née le 25 juin 1982 à Paris. Elle est la fille de l'acteur Jean-Pierre Cassel et de la journaliste Anne Sellerier, la demi-sœur de Vincent Cassel. Donc Cécile Cassel débute dans le théâtre, elle fait de la télé, dans des séries notamment, et aussi au cinéma. On peut noter par exemple La bande du drugstore de François Armanet, mais aussi, avec son niveau avancé en anglais, elle a fait une apparition dans Sex and the City, ou encore dans le film Nous étions libres avec Charlize Theron et Penélope Cruz. En 2008, elle participe aussi à la saison 2 de la série Clara Scheller, où elle campe le rôle de Victoire, la collègue psychorigide de Clara. Vous savez, cette série française qui avait bien marché. Donc en 2008, elle fonde le groupe Olysees et commence à se produire en 2010 en première partie de Yo Delice, Julien Doré ou Brigitte, ainsi que sur d'autres petites scènes. Et donc elle sort un premier album éponyme en octobre 2014, donc qui s'appelle My Name Is. Voilà, Olysees ont fait la première partie d'Indochine le 28 juin 2014. Au Stade de France, et donc je vous propose d'écouter Come Back to Me, c'est le single. Vous allez voir, ça va vous dire quelque chose si vous n'avez pas tout de suite remis qui c'est. Voilà, donc un bel album aussi à écouter, c'est mon coup de cœur, et donc on l'écoute en entier. Thank you.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Et voilà, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission avec Caro.
Elle et lui, justement.
Et oui.
Hein, pour cette chronique. Alors, une petite chronique inspirée de ma boîte aux lettres. Parce que je ne sais pas vous, mais en tout cas, la mienne a commencé à être envahie ces derniers temps par les fameux catalogues de Noël.
Ah oui, effectivement.
Moi, ça risque pas, j'ai un stop pub.
Ah ben voilà.
Mais moi, j'ai d'ailleurs tweeté sur le sujet.
Ah ben, j'ai pas vu le tweet.
Mais il y a déjà quelques jours de cela.
Alors.
Oui, il y a déjà une bonne semaine.
D'accord.
Parce que moi, j'avais répondu à Guillaume et puis j'ai pas eu de réponse.
D'accord. Bon.
Non, mais je disais qu'effectivement, tant qu'à faire, bientôt, on aura bientôt les catalogues de Pâques.
Oui,
parce que c'est
ça. Vrai
que c'est de plus en plus tôt, quand même.
Parce que, voilà, c'était mon premier coup de gueule, quand même. On n'a encore pas passé Halloween que, déjà, nous avons les catalogues de Noël et, dans les rayons, les jouets qui vont avec. Alors, bon, on a très bien compris que tout ça n'était pas très familial et bien commercial, comme tu le disais pour autre chose tout à l'heure. Mais bon, quand même, faudrait pas pousser, quoi. Enfin, je trouve ça un peu tôt. On n'est même pas fin octobre. Enfin, là, on est fin octobre, mais ça fait déjà une quinzaine de jours que tout ça circule.
C'est tôt. Et en même temps, je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui préfèrent étaler aujourd'hui leur cadeau. Parce que voilà, les fins de mois sont compliquées. Et au lieu de tout acheter en décembre, bah, mieux vaut peut-être aussi un peu en acheter en octobre. Même si je le sais très bien que...
C'est bien, Anne-Marie, tu as toujours une bonne pensée.
Les centres commerciaux sont ravis.
Bien sûr.
Bah, et il faut aussi penser pour ceux qui ont des petites bourses.
Mais c'est vrai que l'objectif, c'était d'avoir les catalogues pour les vacances
de
Toussaint. Alors, et que les enfants puissent choisir.
Autant dire que les enfants, eux, sont ravis. Alors, moi, j'ai profité de cette profusion de catalogues dans ma boîte aux lettres pour faire une un petit effeuillage de ces catalogues, en tout cas une petite revue de presse en lien avec la théorie du genre, donc, hein, puisque comme vous le savez, sûrement si vous en avez feuilleté quelques-uns, dans ces catalogues, on ne se gêne pas pour attribuer aux garçons certaines choses et aux filles d'autres. Voilà. Donc j'ai fait un petit melting pot de tout ça. Donc je vais d'abord vous parler du catalogue de Carrefour. Alors c'est à mon avis le plus terrible. Là, pas de scrupules, les choses sont affichées clairement. Le bleu pour les garçons, c'est écrit. Et le rose pour les filles, c'est écrit aussi. À croire qu'ils ne savent pas que les petites filles et les petits garçons ne naissent pas dans les roses et dans les choux. Mais enfin bon, voilà, c'est comme ça. Alors côté... jouer d'éveil jusqu'à à peu près 2 ans, ça reste assez mixte, même si quand même c'est les garçons qui jouent au ballon et aux voitures et aux motos et aux camions de construction, et les filles aux princesses. Donc, quand on déroule le catalogue, on passe les âges, et après l'éveil chez les grands, on retrouve bien ce stéréotype. Donc, dans la partie bleue pour les garçons, les jeux de construction, les Transformers, toute la partie Spider-Man, les pistolets Nerf Elite, apparemment la nouveauté de l'année.
Moi, ça a été déjà l'année dernière.
Ah, pardon, alors je n'en suis pas là.
Moi, j'en ai offert l'année dernière.
D'accord, enfin, en tout cas, double page sur ces pistolets, que des garçons, des voitures, des camions, des avions, et pour les filles, bien sûr, les poupées Equestria avec les Little Pony, les Pet Shop, les Barbie, le tapis de danse et le micro à chanter, comme si à The Voice, il n'y avait que des nanas, les poupées et toute la puériculture. Bien sûr.
Moi, le micro, je vais le demander.
Le tout d'un rose à vomir tellement il y en a. C'est pas que j'aime pas le rose, mais...
Trop, c'est trop,
voilà.
C'est guimauve, après.
Carrefour, à mon avis, la plus mauvaise note de ce côté-là. Après, Toys and Russ. Alors, je fais un peu de pub à chaque fois, tant pis. Catalogue, cette fois, 7 couleurs, avec le bleu pour les garçons et un rose rouge pour les filles. Pas terrible non plus, c'est un peu mieux, mais tout juste. Donc, là, pareil, la partie éveil jusqu'à 2 ans... très mixte, pas de souci. Même si c'est un garçonnet qui conduit une voiture éducative, rire et éveille la voiture. Et c'est une fillette qui tient la poussette avec sa poupée. Voilà. Alors dans ces catalogues, une récurrence quasiment pour tous, c'est les garçons qui jouent de la batterie, voyez-vous. Et les princesses ne sont absolument que pour les filles. On se demande bien où sont les princes charmants.
Mais oui, c'est ça.
Voilà, non, mais c'est incroyable.
La princesse sans prince charmant, elle est
voilà.
Abandonnée.
Ben voilà, ben non, ça n'existe pas, voyez-vous.
Elle est seule dans son donjon.
C'est ça, et elle peut attendre longtemps, à mon avis.
Bah sinon, elle se met avec ses copines, hein, et puis voilà.
Ben, je crois que c'est ça, en fait. Alors après, on va nous accuser d'eux, mais... troisième catalogue. À moins qu'on se fasse une petite pause musicale, allez, Guillaume,
petite
pour illustrer tout ça.
Allez, musicale, c'est parti. Quand j'ai écouté l'extrait hier pour le préparer, j'ai adoré. Tu peux nous citer l'artiste parce que...
Alors, c'est le groupe Zut, et j'en parlerai un petit peu après, puisque c'est une chanson qui a été utilisée en classe dans le cadre des ABCD de l'égalité et qui a fait, bien sûr, polémique. Et pourtant, vous allez le voir, rien de bien dramatique.
Je m'appelle Théo et j'aime les poupées, surtout celles aux cheveux frisés. J'adore jouer à les coiffer, mais mon papa trouve que c'est suspect. Au lieu de m'offrir un sèche-cheveux, j'ai eu un camion à gros pneus. Mais bof, bof, bof. Mais bof, bof, bof.
Je m'appelle Manon et j'aime les voitures. J'adore faire rugir les moteurs. Je rêve de conduire un tracteur. Ma maman dit que c'est contre nature. Au lieu de m'offrir un circuit, on m'achète une poupée Barbie. Mais bof, mais bof, bof, bof.
Mais bof, mais bof, bof, bof. Y'a pas de zizi à mes outils. Pas de zizi à mes outils.
Y'a pas de zézette à ma poussette.
Pas de zézette à ma poussette. Que l'on soit fille ou bien garçon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
On peut shooter dans le même ballon.
On peut shooter dans le même ballon.
Que l'on soit fille ou bien garçon.
Voilà cette chanson qui a fait polémique, alors je vous le disais, rien pourtant de grave, même si effectivement, d'après ces catalogues de jouets de Noël, ce sont plutôt les garçons qui shootent dans les ballons. Donc je reviens à celui d'Auxibule Éveil et Jeux, un catalogue quand même qu'on pouvait espérer un peu mieux que les autres, puisque c'est quand même...
Une marque d'éveil.
Voilà,
plutôt,
c'est une marque d'éveil qui défend quand même les jeux plutôt alternatifs, éducatifs, le Made in France, les jouets en bois, les choses comme ça, donc je m'étais dit quand même, là doit y avoir une prise de conscience de tout ça. Alors ça commence bien, puisque à la première page, vous avez un pirate et sa piratesse, ou la piratesse et son pirate, hein, comme on veut du coup, et à la page suivante, un prince et un chevalier. Donc les choses sont à peu près dans l'ordre, tout va bien. Mais comme ailleurs, quand on déroule après le catalogue, eh ben, les princesses ne sont quasiment que des filles, tandis que le chantier de construction est réservé aux garçons, comme les pompiers, les voitures et tout le tralala. Un garçon au bricolage et une fille au clipot sur une autre double page. Alors, c'est un peu moins flagrant pour les plus grands et les plus petits, hein, parce qu'il y a trois tranches d'âge chez Éveil et Jeux. Mais bon, voilà, c'est pas encore tout à fait parfait. Alors, je vais quand même être obligée de dire, et tant pis si ça fait un peu de pub à quelque chose de local, mais le mieux que j'ai trouvé, et c'est loin d'être parfait, vous allez voir, c'est quand même le catalogue d'Hyper-U.
Ça fait plusieurs années que c'est le cas.
Tout à fait. Et on sait qu'à Mende, quand même, il y a ce souci dans le magasin même d'un travail sur la mixité et de l'accession à certains postes à tout le monde. Donc un catalogue qui est fait par section non pas filles-garçons, mais des sections mes peluches, mes premiers jeux, mes premiers pas, mes premiers véhicules, ma chambre. Et donc, du coup, quelque chose d'assez mixte, avec très souvent une fille et un garçon qui jouent ensemble. Donc, effectivement, du mieux. On peut signaler même qu'un garçon donne à manger à deux poupées, et, avant d'aller même les coucher deux pages plus loin.
Ça serait un bon père, plus tard.
Je pense que tu es quand même la seule à lire le catalogue en te racontant des histoires avec. Hein.
Oui, mais bon, je pense que c'est important, je vais y venir. Si on continue chez les grands, une fille et un garçon bricolent ensemble sur un chantier de construction. Et à la page des fameux nerfs pistolets, les filles et les garçons sont ensemble pour se tirer dessus. Je trouve ça plutôt bien. Voilà. Et dans les dernières pages, qui sont consacrés aux jeux de société, on voit même apparaître l'ensemble de la famille avec les parents, les frères et sœurs et les grands-parents. Donc un catalogue quand même, on peut le signaler, qui est un petit peu moins sexiste, on va dire.
Oui, et puis qui finalement met aussi en valeur finalement ce qui est intéressant aussi
Cette période des fêtes, c'est aussi de rencontrer la famille.
Bien sûr,
De partager finalement.
De partager, voilà.
C'est bien l'idée du cadeau et de cette fête aussi, d'une certaine
façon. Tout à fait. Tout
enfin,
à
ça
fait
reste de la com' quand même.
Ah,
c'est juste qu'ils sont peut-être un peu meilleurs que les autres.
Mais voilà, ils sont juste un peu meilleurs. Mais bon, je pense que c'est quand même quelque chose d'important quand même, parce qu'on est au 21e siècle et quand on voit que certains catalogues sont encore divisés en une partie garçon, une partie fille, en bleu et rose, moi, ça me terrorise. Et je ne peux que caler dans le sens de la ministre de l'Éducation nationale quand elle généralise ce qui a donc été une expérimentation sous le nom des ABC de l'égalité, qui ont fait tant polémique au printemps et qui vont donc être généralisés à tous les établissements scolaires et à toutes les écoles et à toutes les classes, et qui n'ont que pour but les inégalités sociales, rappelait la ministre Najat Vallaud-Belkacem, et non pas du tout la différence biologique, contrairement à ce que certains ont voulu faire croire.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas que le prince soit une princesse. Mais,
exactement.
Mais c'est bien qu'il y ait un prince et une princesse.
Exactement. C'est pas une indifférenciation des sexes, mais bien le respect des uns et des autres, et permettre, parce qu'on en est quand même là, aux femmes, parce qu'il faut bien dire que dans l'égalité, c'est quand même elles les victimes, aux femmes, d'accéder aux mêmes choses que les hommes. Alors c'est vrai que si on apprend aux petits garçons tout petits, si on leur martèle ça dès les catalogues de jouets, ben je trouve ça quelque part catastrophique à notre époque. Après, voilà, à chaque époque. Alors, je voudrais vous rappeler dans quelques chiffres, justement, donnés par le gouvernement sur cette égalité homme-femme, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette inégalité homme-femme. Il y a un écart de compétences fille-garçon en français au collège. Il y a une faible mixité des métiers. 50% des femmes, par exemple, se concentrent sur 12 familles de métiers seulement, notamment dans la santé, le social et les soins, on le sait. L'écart se creuse professionnellement avec le deuxième enfant. Les femmes restent plus à la maison. Il y a une pauvreté des mères célibataires inactives. Les écarts de salaire hommes-femmes, je n'en parle même pas. Hein, c'est 24% d'écart en moyenne sur un même poste. Des violences conjugales pas assez signalées et pourtant récurrentes. Les femmes plus valorisées dans les médias pour leur image que leur expertise, et en même temps, j'avais vu que les femmes sont très très peu présentes à la télé dans tout ce qui est publicitaire, c'est largement moins que les hommes.
Alors, d'accord.
Voilà, je me souviens plus du chiffre.
Ça
m'a énormément surprise. J'avais pas ce sentiment, mais.
Oui, moi non plus, mais.
Donc... j'ai l'impression que c'était le contraire. C'était plutôt les femmes potiches qui étaient plus représentées que les
hommes. Ouais. Voilà. Une parité encore à conquérir. Je rappelle qu'il y a simplement à peine 27% de femmes députées.
Oui, d'ailleurs, il y a une page dessus
dans l'Atlas de la France.
Oui,
incroyable.
Et j'avais pensé à toi parce que je m'étais dit que tu devais sûrement, que tu allais sûrement en parler. Mais vas-y, je.
Mais sachant que la réforme de l'élection des conseillers généraux, on va y
devrait,
rentrer bientôt,
voilà.
On fera une parité parfaite dans l'ensemble des
tout
départements.
Tout à fait, mais on en est
c'est dommage,
à être
quand
obligé
même,
de passer par la loi pour parvenir à ça.
Je trouve ça un petit peu dommage quand même.
Alors ce qui me rassure, c'est que je me dis que c'est une étape pour y parvenir, mais en tout cas, on en est loin dans la réalité. Des pensions de retraite inférieures de 42% quand même en moyenne, c'est énorme. Hein. Et puis une vie plus courte, mais en meilleure santé pour les hommes. Voilà les 10 chiffres clés de l'égalité homme-femme donnés par le gouvernement. Mais quand même, la bonne nouvelle qui est tombée cette semaine, c'était mardi, c'est que l'égalité homme-femme en France progresse, puisque la France est passée de la 29e place dans le classement mondial à la 16e. Voilà. La France a gagné 29 places, c'est-à-dire qu'elle est passée de la 45e place à la 16e dans le classement du Forum économique mondial sur la parité publié donc mardi dernier. Un bond dont s'est félicité l'exécutif, même si, on le voit, notre pays a encore des lacunes sur le plan de l'égalité salariale. Donc le classement couvre le secteur économique, politique, de l'éducation et de la santé. C'est quand même bien puisqu'il y a 142 pays qui sont pris en compte dans ce classement. La ministre et la secrétaire d'État aux affaires sociales, à la santé, aux droits des femmes ont fait remarquer que la France reste au premier rang du classement dans les domaines de la santé et de l'éducation, ce qui est quand même un bon point, et se classe quatrième sur le terrain de l'accès des femmes à des responsabilités ministérielles. Et le classement souligne d'ailleurs la parité instaurée par les gouvernements Hérault et Valls dernièrement en France. Voilà. Au niveau général, la 16e place de la France permet de surclasser les États-Unis, qui sont au 20e rang, et la Grande-Bretagne, qui pointe au 26e rang. Vraiment pas de quoi se féliciter. En tête des pays les plus égalitaires sur tous les plans figurent les 5 pays du nord de l'Europe, avec en première place l'Islande. Après eux suivent le Nicaragua, le Rwanda, l'Irlande et les Philippines et la Belgique. Voilà. Et selon le Forum économique mondial, si les inégalités se réduisent rapidement sur le plan de la santé et de l'éducation, au niveau mondial, il faudra attendre 2095 pour voir la parité atteinte sur le plan professionnel, soit dans 80 ans. Bonjour.
Donc on ne sera plus là pour le vérifier.
Il y a donc du travail, et donc tant mieux que ces ABCD de l'égalité soient transformés en plan général pour l'égalité des filles et des garçons à l'école. Moi, je m'en réjouis. J'adore la façon dont la ministre défend ce dossier et ne s'est pas laissée perturber par...
Après, il faut voir aussi comment ça va être mis en place dès la rentrée, parce que c'était quand même aussi un effet d'annonce. On sait aussi qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de proposition, hélas, il y a beaucoup de... Enfin, on entend
bien sûr.
Les mécontents. Donc, à voir aussi, peut-être, non ?
Tout à fait, mais je crois qu'il faut aussi faire confiance aux professionnels de l'enseignement et aux instituts qui sont face à nos enfants et qui ont beaucoup de bon sens.
Oui,
et
tout à fait, mais du coup, quels sont les moyens qu'on va leur donner aussi pour mettre en place cette idée ?
Alors, c'est à découvrir sur le site du ministère, il y a vraiment tout un plan détaillé avec des outils qui sont mis à disposition pour ce travail et pour... Si je prends l'exemple du sport, par exemple, des cours de PS dans le second degré, il est bien précisé qu'il faut un survêtement et des baskets pour tout le monde, et pas des sandales pour aller courir pour les filles ou une jupette, quoi, voilà. Et je pense que c'est le genre de préconisation toute bébête, qui tombent sous le bon sens, qui peuvent faire évoluer les choses, effectivement, quoi.
Bien, qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter pour
terminer ? J'ai voulu quand même rester un petit peu dans le ton de cette chronique, et donc je vous propose Sans contrefaçon de Mylène Farmer.
Sans contrefaçon, je suis un garçon.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Factuel et lui.
Et voilà, c'est triste, mais c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous pour les rediffusions le jeudi à 12h30 et le mardi à 18h11.
Voilà. Alors, est-ce que je peux dire que pour ces rediffusions, est-ce que je peux faire une petite spéciale dédicace à ma belle-sœur Agnès, qui a découvert que justement elle pouvait écouter en rediff et sur internet notre émission, puisqu'elle habite un peu loin. Donc voilà, j'ai promis que je lui ferai un petit coucou, je tiens ma promesse. Coucou Agnès. Et voilà.
Donc Agnès, elle y aille tous les jours.
Voilà, et donc vous pouvez, comme Agnès, tous les jours aller réécouter notre émission sur le site internet de 48FM.
Papa, écoutez les autres émissions, hein. Écoutez la nôtre.
La nôtre. Voilà.
Vous pouvez aussi découvrir tout ce qui se fait sur cette, cette radio, bien entendu. Bonne journée à tous et à bientôt.
À très bientôt.
À très bientôt.
Factuel et lui.
Factuel et lui.